Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Indonésie reste toujours forte dans la défense de la Palestine, a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères. Indonésie veut une solution à deux États selon les paramètres internationaux. Il est temps pour l'Indonésie de se doter d'une garde côtière, a affirmé le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité. Indonésie et Uruguay entament une coopération pour renforcer les garanties des produits halal. Le directeur général de la HU a déclaré que 36 athlètes étrangers avaient été naturalisés depuis 2010. Centre de Batik, le ministère de l'Industrie organise une formation pour les entrepreneurs créatifs de la région spéciale de Yogyakarta. Les visites de touristes étrangers jusqu'en avril 2024 ont atteint 4,09 millions. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le gouvernement indonésien était toujours fort et cohérent dans le respect des principes des valeurs universelles pour défendre le peuple palestinien. Grâce à cette force et à ce principe, l'Indonésie est respectée par le monde. C'est ce qu'a affirmé Retno Marsudi lors d'une conférence publique intitulée « Diplomatie indonésienne pour l'Indonésie » à la salle du Sénat de l'Université Gadjah Mada, UGM, de Yogyakarta, lundi 3 juin. Retno Marsudi a souligné que la cohérence de ces principes n'est pas une chose facile pour l'Indonésie au milieu d'une situation mondiale difficile et stressante. Toutefois, Retno Marsudi a souligné que l'Indonésie pouvait toujours maintenir ce principe. Le gouvernement indonésien souhaite une solution à deux États, à savoir Israël et la Palestine vivant côte à côte conformément aux paramètres internationaux. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Abdul Qadir Jailani, lors d'une discussion en ligne à Jakarta lundi 3 juin. Abdul expliquait que la solution à deux États souhaitée par l'Indonésie est la création d'un État palestinien avec des frontières déterminées en 1967. Le deuxième paramètre est l'arrêt de la construction de colonies juives en Cisjordanie. Troisièmement, le droit du peuple palestinien à retourner dans sa patrie. Selon Abdul, le dernier paramètre le plus important est Jérusalem en tant que capitale de la Palestine. Selon Abdul Qadir, une solution à deux États est très difficile car actuellement Israël la rejette fermement. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Hadi Cahyanto, a déclaré qu'il était temps pour l'Indonésie de se doter d'une garde côtière indonésienne pour maintenir la sécurité et l'application de la loi en mer. Hadi Cahyanto, après avoir assisté à une réunion de travail avec la Commission spéciale pour les projets de loi, ou RUU, sur les affaires maritimes, au complexe parlementaire de Jakarta, a souligné lundi 3 juin que le président, depuis 2014, a préparé l'Agence de sécurité maritime, ou Bakamla, comme l'embryon des gardes-côtes indonésiens. Pour cette raison, il est nécessaire d'harmoniser un certain nombre de lois afin d'éliminer les échevaugements entre les réglementations en matière de sécurité maritime. Dans le projet de loi maritime, 11 articles ont été préparés concernant Bakamla. Le gouvernement espère qu'à l'avenir, cette agence mènera des enquêtes liées aux questions maritimes et à ses activités sous la supervision directe du président. De cette façon, les problèmes en mer seront plus facilement résolus. Les gouvernements indonésiens et uruguayens étudient la possibilité de coopérer pour renforcer les garanties des produits halal, GPH, afin d'améliorer la qualité des produits sur les marchés internationaux, ainsi que de s'engager à fournir des produits halal à la communauté. L'exploration de la coopération a été marquée lundi par une visite de travail du gouvernement uruguayen au bureau du ministère de la Région à Jakarta. Le chef de l'agence organisatrice de la garantie des produits halal, BPZPH, du ministère de la Région, Muhammad Akil Irham à Jakarta, a déclaré lundi que cette coopération de la garantie des produits halal est importante car elle est liée à la coopération commerciale ou à l'exportation et à l'importation de produits halal entre les deux pays. De plus, à partir d'octobre 2024, tous les produits entrant ou circulant et commercialisés en Indonésie doivent être certifiés halal. Il a ajouté que sa partie rêve de faire de l'Indonésie le premier producteur mondial de produits halal, si bien qu'une collaboration avec l'Uruguay est donc nécessaire pour que ce souhait se réalise. Le directeur général de l'administration juridique générale AHU du ministère de la Loi et des Droits de l'Homme, Cahyo Ermuzak, a déclaré que 36 athlètes étrangers avaient été naturalisés de 2010 à 2024. Il a fait savoir lors d'une réunion de travail de la Commission 3 de la Chambre des représentants avec le ministère de la Loi et des Droits de l'Homme et le ministère de la Jeunesse et des Sports au bâtiment du Parlement à Jakarta lundi 3 juin. L'ordre du jour de la discussion est une demande d'examen de l'octroi de la citoyenneté de la République d'Indonésie ou naturalisation à deux athlètes de football d'origine indonésienne, à savoir James Raven et Calvin Ronald Verdong. Cahyo Muzak a déclaré que des dizaines d'athlètes étrangers naturalisés venaient de divers pays et de divers sports, dont le football et le basketball. Le Centre de normalisation et de services pour l'industrie de l'artisanat et du batik du ministère de l'Industrie a collaboré avec l'Office du tourisme de la région spéciale de Yogyakarta pour organiser une formation basée sur les compétences pour 25 acteurs de l'économie créative du sous-secteur de l'artisanat de cette province. Le chef du Centre de normalisation et de services pour l'artisanat et l'industrie du batik de Yogyakarta, Budi Setiawan, dans sa déclaration à Yogyakarta, lundi 3 juin, a déclaré que cette formation basée sur les compétences vise à encourager le développement des capacités des acteurs de l'économie créative dans le secteur du batik à Yogyakarta. Selon Budi, la formation et la certification pour la fabrication de tissus batik estampés pour les praticiens du batik du centre a lieu du 3 au 7 juin 2024 afin de soutenir la région spéciale de Yogyakarta comme l'une des destinations touristiques les plus complètes d'Indonésie afin que le secteur industriel soit nécessaire en tant que supporteur. L'Agence centrale de statistiques ou BPS a indiqué que le nombre de visites touristiques étrangères de janvier à l'avril 2024 a atteint 4,09 millions de visites. Lors d'une conférence de presse à Jakarta lundi 3 juin, la chef par intérim du BPS, Amalia Adiningar Widyayasanti, a déclaré que Ce nombre était le plus élevé des quatre dernières années ou depuis 2020. Selon Amalia, le plus grand nombre de visites touristiques étrangères provenait de Malaisie, soit 16% du total des touristes étrangers, suivi par l'Australie, 12%, la Chine, 8,1%, Singapour, 7,6%. Elle ajoutait que jusqu'à 47,13% du total des touristes étrangers sont entrés en Indonésie via l'aéroport international Igusti Ngurah Rai de Bali. C'est Zerita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est Jurita, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie et la Norvège discutent des problèmes de l'environnement et du changement climatique ». Les problèmes environnementaux, la déforestation et le changement climatique ont été les principaux sujets de discussion lors de la visite du ministre norvégien du Climat et de l'Environnement, Andrea Bjelland Eriksen, et de sa délégation au Palais Merdeka Jakarta, dimanche le 10 juin 2024. Lors d'une réunion avec le président Joko Widodo, accompagné de la ministre de Forêt et de l'Environnement, Siti Nurbaya Bakar, et la ministre des Finances, Sri Mulyani, le partenariat entre l'Indonésie et la Norvège pour surmonter le changement climatique a été discuté, dont l'un était d'atteindre l'objectif de la foresterie et autres utilisations des terres, FOLU Net 5 pour 2030, concernant l'utilisation des forêts et des terres. La ministre Siti Nurbaya Bakar, dans sa déclaration, après avoir accompagné le président Joko Widodo, expliquait le succès des efforts de l'Indonésie pour réduire les émissions de carbone de 2020 et 2023. Elle a déclaré que jusqu'à l'an 2023, l'Indonésie avait réussi à dépasser son objectif de réduction des émissions de carbone. Grâce au succès de cet objectif, la Norvège a apporté un soutien concret de 156 millions de dollars américains, ce qui équivaut à approximativement à 30,2 millions de tonnes de carbone. Pendant ce temps, le ministre norvégien du climat et de l'environnement, André Bjelland-Eriksen, a apprécié les réalisations de l'Indonésie en matière de réduction de la déforestation jusqu'à 90% et de réhabilitation ambitieuse des terres au cours des dernières années. Il estime que ce que fait l'Indonésie avec l'objectif Follow Net 5 en 2030 est quelque chose que le monde devrait savoir. Comme on le sait, même si la Norvège n'est pas un pays membre de l'Union européenne, les politiques et réglementations environnementales et commerciales de la Norvège sont conformes à ce qui est mis en œuvre par l'Union européenne, où tous les produits fabriqués et exportés vers la région scandinave doivent s'appuyer sur un équilibre entre nature, environnement et écologie. Le fait d'avoir obtenu le soutien financier de la Norvège confirme également que l'Indonésie est très préoccupée par l'environnement et l'amélioration des forêts. Les efforts de l'Indonésie pour envisager des plantations qui s'étendent dans des zones où il existe encore de nombreuses forêts d'origine pour surmonter les changements et l'effet de serre sont indispensables. De plus, l'Indonésie recevra de fonds d'aide après avoir réussi à réduire les émissions de carbone. Comme l'a dit l'ambassadeur de l'Union européenne aidera l'Indonésie dans la gestion forestière et environnementale afin qu'elle puisse continuer à être durable pour les générations futures. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur le jour de l'indépendance des Tonga. Tonga est un pays polynésien sous la forme d'un archipel composé de 177 îles avec une superficie insulaire totale d'environ 750 km². Les Tonga sont devenus un pays de Commonwealth britannique le 18 mai 1900 sur la base d'un traité d'amitié. Ce statut a pris fin le 4 juin 1970 lorsque les Tonga ont proclamé leur indépendance. L'autre information est sur la journée des enfants victimes de la guerre. La journée internationale des enfants innocents victimes d'agressions est instituée par les Nations Unies chaque 4 juin. Les enfants sont les victimes les plus vulnérables pendant la guerre. Ils ont été forcés de rejoindre la guerre, sont devenus victimes de meurtres, de violences sexuelles et d'enlèvements. Le 19 août, l'ONU a tenu une session extraordinaire pour discuter des problèmes en Palestine, car de nombreux enfants en Palestine et au Liban ont été victimes de l'agression militaire israélienne. Sur cette base, il a été établi qu'il existait un mémorial pour les enfants victimes de la guerre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 juin 2021. Richard Robert Ernst est un physicien chimiste suisse et lauréat du prix Nobel. Né à Winterthur en Suisse, Ernst a reçu le prix Nobel de chimie en 1991 pour sa contribution au développement de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire RMN a transformé à Fourier lorsqu'il travaillait chez Varian Associates Palo Alto et développement ultérieur des techniques RMN multidimensionnelles. Le RMN est appliqué au domaine de la chimie et de la médecine. Il a également reçu le prix Louisa Gross-Ulrich en 1991. C'est aujourd'hui, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewa. Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Transports indonésiens sont dans une phase de transformation » avec Maudry. Sur Jeter, le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, a déclaré qu'actuellement le secteur des transports en Indonésie est en train de se transformer en raison de l'urbanisation et de la croissance économique. Il l'a exprimé lors de sa rencontre récente avec les ministres des Transports de Singapour, du Cambodge et du Pakistan, ainsi que des représentants d'un certain nombre de pays pour discuter des systèmes de transports intelligents lors du 19e Forum des systèmes de transports intelligents de l'Asie-Pacifique au centre des congrès de Jakarta. Comme cité par Tempo lundi 3 juin, le ministre Budi a souligné que le gouvernement indonésien donne la priorité à une connectivité de transport fluide et résiliente. Il a déclaré que la région Asie-Pacifique est en tête du système de transport intelligent. Avec un taux de croissance annuel prévu de 17,8%. Cependant, les pays sous-développés et en développement ont encore du mal à mettre en œuvre des transports intelligents. C'est pour cette raison que la table ronde de haut niveau met l'accent sur le rôle du gouvernement, du secteur privé et des institutions financières dans le soutien au développement des infrastructures. Budi prédit que d'ici 2050, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones urbaines. Budi estime que cela créera divers problèmes dans le secteur des transports, tels que des embouteillages, des accidents, une logistique entravée et une pollution par le gaz carbonique. À la même occasion, Budi a soutenu qu'un système de transport intelligent est capable de surmonter ces problèmes en utilisant la technologie. C'est pour cette raison que l'Indonésie encourage la mise en œuvre de la connectivité interrégionale, en particulier dans la région Asie-Pacifique basée sur le numérique. En dehors de cela, il a également demandé le développement d'installations et d'infrastructures de transport terrestre inclusives et la priorité à l'intégration des différents modes. Au cours de la réunion, le ministre Budi a apprécié les solutions et initiatives émanant d'un parti prenante dans certains nombres de pays pour accélérer les progrès de la connectivité dans le secteur des transports. Il espère que des engagements et des partenariats pourront être formés ultérieurement pour accélérer la mise en œuvre de ces systèmes de transport intelligents. Le 19e Forum des systèmes de transport intelligent d'Asie-Pacifique s'est déroulé jusqu'au 30 mai 2024. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, trois réalisations principales ont été obtenues lors du forum. Le président du système de transport intelligent ITS Indonésie, William Sebandar, a expliqué que la première fois de la réunion était de se mettre d'accord sur la déclaration de Jakarta sur la mobilité urbaine durable et intelligente. Cette déclaration de Jakarta sur la mobilité urbaine durable et intelligente. La deuxième réalisation est l'initiative de Jakarta sur la mobilité urbaine durable et intelligente. Entre-temps, la troisième réalisation est le lancement d'une initiative qui soutient les efforts de lutte contre le changement climatique appelée la route e-mobi ou bien mobilité électrique de Jakarta à la COP29 à Bakou. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Da 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 da.
Serge Litard, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Serge Litard, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le tourisme de Inde. Le mois de juin est connu comme le mois de Pancasila parce que chaque 1er juin, le peuple indonésien commémore la naissance de Pancasila comme base et ligne directrice de la nation. En ce mois de Pancasila, nous vous invitons à Inde, la régence de la province de Nusa Tenggara Est, où le président Sukarno a été exilé. C'est ici que M. proclamé a réfléchi aux fondements de l'État indonésien. Inde possède de nombreuses belles destinations et possède une valeur historique. L'un d'entre eux est la maison d'exil de Bung Karno. Le bâtiment qui est aujourd'hui un musée était l'endroit où vivaient Bung Karno et sa famille lorsqu'ils étaient exilés à Inde en 1934 jusqu'à 1938. Au cours de son exil, Bung Karno a réfléchi aux fondements de l'État indonésien, à savoir Pancasila. Ici, toutes les affaires de Bung Karno sont encore soigneusement rangées, y compris les empreintes de ses deux paumes lorsqu'il se prosternait dans la salle de prière. Outre la maison d'exil de Bung Karno, il y a aussi le lac de Kelimutu. Cette destination est célèbre pour ses trois lacs de cratères aux couleurs uniques qui changent à certaines heures. Selon les croyances locales, chaque couleur représente un groupe d'hommes différents. Durant son exil, Bung Karno visitait souvent ce magnifique lac. Il a également fondé un groupe de théâtre appelé le Club Tonil Kelimutu. À Inde, il y a un village traditionnel, Wologai, que vous devez également visiter. Ce village traditionnel de Wologai offre une expérience culturelle authentique avec des maisons traditionnelles uniques et de l'artisanat local. La maison a la forme d'un pilotis avec un toit s'élevant au-dessus d'une fondation en pierre. Ici, vous pouvez voir directement les activités communautaires de la transformation du café, la transformation de noix, le jardinage et la fabrication d'objets d'artisanat en bois. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi,
mencoba untuk hadapi semua ini meski tanpamu.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radio-diffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Ketika Lang Hinggap. Ketika Lang Hinggap. Quand l'aigle atterrit. Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Ketika Lang Hinggap. Ketika Lang Hinggap. Quand l'aigle atterrit. La situation est crise, un vlogueur australien et Widari, un ami de la communauté des vlogs, sont au Bali Bird Park. Widari a informé de l'incident survenu alors qu'elle enregistrait le spectacle d'aigle. Bonne écoute.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi? Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap. Quand l'aigle atterrit. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Caméra. Caméra, appareil photo ou caméra. Mati. Mati, c'est un. Ketika. Ketika, lorsque ou quand. Elang. Elang, aigle. Hinggap. Hinggap, se pose sur. Kepala. Kepala, tête. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. L'appareil photo ou caméra s'éteint lorsque l'aigle se pose sur votre tête. Bagaimana? Bagaimana? Comment? Apakah? Apakah? Est-ce que? Merekam. Merekam, enregistrer. Selama. Selama, pendant. Pertunjukan. Pertunjukan, spectacle. Elang. Elang, aigle. Mohon maaf. Mohon maaf, pardon. Aduh. Aduh, hélas. Sayang sekali. Sayang sekali, malheureusement. Baterai. Baterai, batterie. Kamera. Kamera, appareil photo ou caméra. Habis. Habis, morte. Chers auditeurs, dans une conversation, vous avez entendu la diction Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. La caméra s'est déclenchée lorsque l'aigle s'est posé sur ta tête. Dans cet énoncé, il y a la conjonction ketika, ketika, lorsque ou quand, qui relie les parties de la phrase Kameranya mati. Kameranya mati, la caméra est éteinte. Et l'aigle perché sur ta tête. Et l'aigle perché sur ta tête. Lang hinggap di kepalamu. La conjonction ketika. Ketika, quand, fonctionne pour relier deux parties d'une phrase qui exprime deux événements qui ont lieu en même temps. Dans cet énoncé, la conjonction ketika, ketika, lorsque ou quand relie l'événement selon lequel l'appareil photo de Chris qui était tenu par Widery s'éteint. Lorsque l'aigle s'est posé sur la tête de Chris. Chers amis, un autre exemple. Allez écouter des exemples d'utilisation de la conjonction ketika, ketika. Lorsque ou quand, dans d'autres phrases. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Je mangeais quand mon ami est arrivé. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari regardait un spectacle de faucons lorsque son ami a appelé. Chers auditeurs, le parc ornithologique de Bali compte plus de 1300 oiseaux de plus de 250 espèces. Certaines des principales collections du Bali Bird Park comprennent des oiseaux endémiques indonésiens typiques, à savoir les elang, elang, les aigles, gagak, gagak, les corbeaux, merpati, merpati, les colombes, et beo, beo, les perroquets. Sergio Etar, avant de terminer, apprendra l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan Elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika Elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Bon, chers étudiants, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Cette fois-ci, je vous donne une chanson malaise intitulée Danau Sebedang, chanté par Majinur Darli Santo. Cette chanson a été composée par Majinur Darli Santo lui-même. Conformément au titre de la chanson, les paroles racontent du lac Sebedang, l'une des attractions touristiques de la province de Kalimantan de l'Ouest. On dit que ce lac offre de belles vues naturelles, donc on invite tous à préserver ce magnifique lac. La chanson Danau Sebedang est une chanson malaise sambas. Les Malais Sambas sont un groupe ethnique malais qui habite la côte du Kalimantan de l'Ouest. Cette tribu occupe la plupart des zones de la région de Sambas, de la région de Bengkayang, de la ville de Singkawang et de certaines parties de la région de Landak. Bon, chers auditeurs, voici Danau Sebedang de Majinur Darli Santo. Bonne écoute!
Tasik lara baranti sungguhlah indah pemandangan alam sungguhlah luas ahai mate memandang anugerah Allah nang maha kuasa tampaknya bename danau Sibadang di
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.